En Inde, 86 viols sont officiellement recensés chaque jour. Les femmes n'osant souvent pas les déclarer et les autorités rechignant à enregistrer les plaintes, le chiffre serait en réalité bien plus élevé. Pendant 6 mois, Abhijit Pandey et Antoine Védeillé ont suivi Kinjal et sa famille dans leur quête de justice. Il y a 3 ans, cette jeune fille, qui appartient à la communauté Dalit, les Intouchables, tout en bas du système des castes, a été violée par le fils d'un propriétaire terrien issu d'une caste supérieure. Comme souvent dans ce genre d'affaires, la famille du violeur a proposé aux parents de Kinjal de leur offrir des terres et une grosse somme d'argent pour étouffer l'affaire. Mais le père de Kinjal a refusé le compromis et préféré porter l'affaire devant les tribunaux, un acte de courage rare mais un affront pour les castes supérieures. En signe de son combat, il a décidé de ne plus porter de chaussures et de se laisser pousser les cheveux. Il ne les coupera que lorsque sa fille aura obtenu justice. Pour aider Kinjal à se reconstruire et à affronter les affres des tribunaux indiens, la famille peut compter sur le soutien de Manjula Pradeep, cette activiste dalit elle aussi, qui consacre aujourd'hui sa vie à la défense des femmes violées. Le film documentaire « Les cheveux de mon père » d'Abhijit Pandey, journaliste, et Antoine Védeillé, réalisateur et producteur, a été proposé dans la section « Autrement vu » dans le cadre de la 33e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, qui s'est déroulé à Douai du 30 mars au 4 avril 2026. Entretien avec Abhijit Pandey et Antoine Védeillé autour du documentaire et des dessous de celui-ci. Je vais peut-être commencer par vous demander des nouvelles aussi de Kinjal.
Concernant la procédure en appel, il n'y a pas beaucoup de nouvelles parce que ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre des années. Mais si on parle que de Kinjal, elle va bien. On a l'impression que depuis qu'elle a eu le verdict, elle se sent mieux. C'est un poids qui s'est levé.
On a cette impression-là aussi à la fin du reportage. Alors, comment ça s'est passé pour vous, pour aller convaincre la famille? Parce que, si j'ai bien compris, la porte d'entrée de ce reportage, c'est l'activiste qui a dû vous donner aussi les contacts de cette famille, les moyens de les retrouver, parce qu'on comprend tout de suite, dès le début du reportage, qu'ils habitent en pleine campagne.
Oui, en fait, malheureusement, il y a énormément de cas de viol en Inde, donc il y a plein d'histoires différentes qu'on aurait pu choisir de raconter, mais on a entendu parler de cette histoire grâce à Manjula Pradeep, donc qui est une activiste qui travaille dans l'état du Gujarat, dans l'ouest de l'Inde, et c'est elle qui nous a mis en contact avec la famille, et Abhijit a pu aller les rencontrer sans caméra, sans ma présence, pour leur expliquer notre démarche, et c'est ce qui nous a permis de nous faire accepter. On n'est pas arrivé avec nos gros sabots de journalistes, nos caméras, leur mettre une caméra sous le nez, à leur poser des questions. On a eu le luxe du temps. Arte nous a donné du temps, on n'en a pas toujours, et c'est ce qui nous a permis, on a mis 7 mois à faire ce film, et c'est ce qui nous a permis justement d'avoir la confiance de la famille et de réussir à se faire accepter.
Alors vous l'avez dit, beaucoup de cas de viol en Inde, 86 par jour si j'ai bien retenu. C'est énorme, les chiffres sont hallucinants.
Alors c'est énorme, après il faut le rapporter à la population indienne, il y a 1,5 milliard d'habitants, donc, mais oui c'est énorme, et surtout c'est de viols officiellement recensés, ça veut dire des femmes qui osent aller porter plainte, et bien souvent, notamment d'ailleurs dans les campagnes, les affaires, et c'est ce qu'on essaie de montrer dans le film, les affaires se règlent à l'amiable et on ne va pas devant les tribunaux, donc c'est 86 officiellement recensés, mais en réalité il pourrait y en avoir beaucoup, beaucoup plus.
Comme dit Antoine, il pourrait y avoir beaucoup plus de cas de viol, et c'est triste à le dire, mais aujourd'hui, on a quand même l'impression que c'est devenu... les affaires de viol sont devenues des faits divers, et la société s'est un peu désensibilisée de ça, et c'est pour ça qu'on ne voit pas trop des grosses manifs ou des réactions de la société quand il y a des cas sordides de viol.
Il y a 2,5% des plaintes qui aboutissent. On le voit, hein, que le système de caste écrase tout. Et on se demande si les personnes qui sont sur la caste la plus inférieure ne peuvent pas tout simplement juste subir son secours, finalement. C'est cette impression qu'on a.
Oui, alors c'est un paradoxe en Inde, parce que ce n'est pas parce que vous êtes d'une basse caste que vous ne pouvez pas accéder à des responsabilités. L'exemple le plus frappant, c'est que la constitution indienne a été rédigée par un intouchable. Donc ça paraît complètement fou. En revanche, lorsqu'il y a un rapport entre les castes. Là, la caste dominante, la haute caste, dans 99% des cas, sortira vainqueur face à une basse caste qui n'a pas voix au chapitre. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe là dans le cas de Kinjal. La justice a été rendue par une femme. Donc on pourrait penser qu'elle est sensible à ces questions d'agression sexuelle, de viol, qu'elle aurait pu pencher du côté de la victime. Mais c'était aussi une haute caste. Et donc, est-ce que, on n'a pas la preuve, évidemment, que la juge a été corrompue, on a le droit de le penser.
En fait, le système de caste est tellement puissant que malgré tout, même par exemple, il y a souvent des histoires en Inde quand on parle des fonctionnaires, donc qui sont supposés avoir beaucoup de pouvoir en Inde. Bah, quand on est d'une caste intouchable, d'une basse caste entre guillemets, et qu'on réussit à entrer dans la fonction publique, bah, à partir d'un certain niveau, bah, ces gens-là, ils peuvent plus avancer. On bloque leur promotion, ils sont voilà, mais donc c'est partout.
Oui, il y a l'air d'avoir beaucoup de corruption. On le voit avec l'avocat qui... Il y a eu une tentative de corruption de cet avocat. Et on essaie de corrompre un peu quelque part aussi les victimes et leurs familles en leur proposant en échange de l'argent ou là, dans le cadre de notre personnage principal, de pouvoir financer ses études.
Oui, en fait, la famille donc du violeur présumé est d'une haute caste. Ce sont de riches propriétaires terriens. Et donc, en échange du silence et du retrait de la plainte, ils ont proposé de donner 100 000 euros. C'est-à-dire une fortune, c'est bien plus que la famille de Kinjal ne pourra gagner dans toute sa vie et même dans les prochaines s'il se réincarne. Et donc, ça leur aurait permis de s'acheter une voiture, une belle maison, de payer les études. Ils leur ont aussi proposé de leur offrir des terres et donc de faire d'eux à leur tour des propriétaires terriens. Mais pour autant, voilà, et c'est en ça que cette histoire aussi nous intéressait, c'est que le Ramesh, le père de Kinjal, a fait un choix rarissime qui est celui de ne pas accepter le compromis et de porter l'affaire devant les tribunaux.
Alors justement, ce film, il s'appelle « Les cheveux de mon père ». On n'a pas eu le temps d'en débattre avec le reste du public. Ce père, il a fait le choix de ne plus se couper les cheveux pendant toute la durée du procès, de ne plus porter de chaussures non plus. Est-ce que, je sais qu'en Inde, il y a beaucoup d'attrait à la religion aussi. Est-ce que c'est un choix qui est sacré? Il parle de pénitence.
En Inde, on voit souvent des gens, quand ils veulent accomplir quelque chose, bah, ils prennent un serment, et dans le cas de Ramesh, bah, lui, c'était vraiment, cette lutte pour son honneur et l'honneur de sa fille était vraiment important pour lui, et donc c'est pour ça qu'il a pris ce serment. Mais il n'est pas, c'est assez commun de voir ça en Inde, mais pour nous, là, dans un cas de viol, c'était la première fois qu'on voyait ça, qu'un père avait pris une telle décision de ne pas se faire couper les cheveux et de ne plus porter de chaussures.
Il y a des scènes très fortes aussi dans ce reportage. Je pense à la scène où il y a tous ces hommes d'une caste supérieure qui justement font un état des lieux de cette affaire en parlant même de jeunes amoureux qui auraient eu une histoire ensemble et qu'ensuite elles porteraient plainte, de dire que c'est juste pour de l'argent.
Oui, mais c'est leur narratif de dire que les basses castes sont là pour causer des problèmes aux hautes castes, qu'il y a une jalousie parce qu'ils sont en bas de la société, et que donc, en fait, la seule chose qu'ils espèrent, c'est pouvoir tirer de l'argent et récupérer de l'argent et profiter de la fortune des hautes castes, et que donc cette affaire n'est qu'un coup monté. Et puis d'ailleurs, ils s'embrouillent entre eux parce qu'il y en a un qui dit que c'est un coup monté, l'autre qui dit « Ah mais non, mais en fait, ils étaient en couple, mais pas vraiment, mais elle voulait juste l'argent. » Bon, en fait, ils en savent rien d'ailleurs. C'est juste que pour eux, ce sont des basses castes, et donc ils sont là pour leur causer des problèmes.
Thank you.
aussi cette scène où Kinjal jette des pierres dans ce qui semble être un puits.
Bah, cette scène, on l'a vue, c'était une scène naturelle parce qu'on venait de filmer une séquence de Kinjal et sa cousine. Et quand on partait par elle-même, les deux ont commencé à jeter des pierres dans le puits. Et donc, avec Antoine et Thomas Blanc, on s'est dit que ça valait le coup de filmer parce qu'on le voit vraiment dans les images qu'elle se lâche et elle se libère un peu en jetant ses pierres.
Elle décharge quelque chose, et d'ailleurs on le voit dans le montage, mais c'est comme ça qu'on l'a filmé, c'est-à-dire qu'au début elle sourit, et à la fin on dirait qu'elle est énervée. Et au début ça l'amuse de jeter des pierres, et au bout d'un moment on sent qu'elle, c'est ce que dit Abhijit, qu'elle se libère d'un poids, qu'elle décharge toute sa colère, et c'était quelques jours avant le verdict.
Et c'est terrible pour elle en plus, parce que ce verdict il est repoussé plusieurs fois.
Et puis pour des motifs complètement futiles, un coup c'est le greffier qui est en congé, la juge qui n'a pas le temps de rédiger sa décision, et c'est du temps perdu pour la famille, c'est de l'argent perdu pour la famille, et ça rajoute à la peine et à la douleur de Kinjal, et on le voit d'ailleurs, et elle le sent que ça va durer, ça dure depuis 3 ans, et le jour du verdict, quand on la suit, elle dit « mais je sais que ça va pas... » Enfin, elle le sent que ça va être repoussé, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle dit « je veux que ça s'arrête », et on a l'impression que ça ne s'arrête jamais en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est ce que disait Abhijit au départ, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle va mieux. C'est paradoxal, elle a perdu, elle n'a pas obtenu justice, et pourtant, elle va mieux, mais parce qu'au moins, cette affaire est finie, c'est derrière elle, elle n'a plus à aller au tribunal, elle n'a plus à être confrontée à son agresseur, et c'est ce qui l'a libérée.
Et c'est pour ça aussi que finalement, son père s'est coupé les cheveux et a remis des chaussures.
Bah oui, parce que nous, quand on a parlé avec Ramesh, on se posait la question, est-ce que s'il perd, est-ce qu'il va le faire? Et en fait, il nous a dit que oui, il veut aller le faire parce que là, il fallait un nouveau départ, il fallait se rafraîchir, il fallait oublier ce qui s'est passé et recommencer la bataille.
Une dernière question, est-ce que vous pouvez un petit peu me parler de Majula, qui est l'activiste qu'on voit dans le documentaire? On peut voir notamment qu'elle fait des réunions entre femmes qui peuvent servir de sensibilisation aussi.
Ouais, c'est une femme assez incroyable, donc c'est une Dalit, une intouchable elle aussi, elle-même victime de viol lorsqu'elle était enfant, et elle a une force de caractère, elle est très impressionnante, elle est très très charismatique, elle a vraiment pris Kinjal sous son aide, et elle pense que son mantra c'est un peu de dire qu'en fait si on n'a pas connaissance des lois, on est persécuté, et donc sa mission elle c'est vraiment d'aller dans les villages reculés pour expliquer aux femmes que ce n'est pas parce que ce sont des femmes, qui plus est des femmes dalites, donc tout en bas du système de caste, qu'elles n'ont pas voix au chapitre, et qu'elles n'ont pas le droit d'être respectées, et qu'il existe des lois pour les protéger. Et elle dit que le problème, c'est que si elles ne connaissent pas ces lois, elles continueront toute leur vie, évidemment, à être maltraitées, marginalisées. Et donc, elle est dans cette démarche d'aider les femmes, d'aider les victimes, mais aussi d'aider les femmes avant qu'elles ne deviennent des victimes.
Et grâce au travail de Manjula, dans chaque village, c'est comme on a vu dans le sujet aussi, il y a des femmes comme Gita qui ont tout appris avec Manjula et elles sont devenues des leaders dans leur village. À leur tour, elles vont apprendre aux femmes leurs droits, de ce qu'il faut faire quand il y a une affaire de viol ou même une affaire de discrimination envers les castes. Donc c'est vraiment, je pense, c'est un travail vraiment important qu'elle fait.
C'était un entretien avec Abhijit Pandey, journaliste, et Antoine Védéyer, réalisateur et producteur du documentaire « Les cheveux de mon père » qui a été proposé dans la section « Autrement vu » dans le cadre de la 33e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, qui s'est déroulé à Douai du 30 mars au 4 avril 2026. Vous pouvez d'ailleurs découvrir ce reportage jusqu'au 6 septembre 2028 sur le site internet d'Arte. Le titre est un petit peu différent, recherchez Inde, le viol, les castes, l'injustice.